Radio Kapi.
L'actualité en ce lundi 18 juillet, c'est le démarrage des épreuves d'examen d'État édition 2022. Radio Okapi ouvre son journal avec la passation de cette épreuve dans différentes villes de la RDC. Et puis nous vous parlerons de ce revirement politique de Jean-Marc Kabound, ancien responsable de l'UDPS qui lance son propre parti, lequel s'attaque présentement au pouvoir de Félix Tshisekedi. Quant à la gestion du pays, principalement la crise sécuritaire avec l'attaque du M23 dans la partie est de la RDC. Nouvelle salutaire pour la ville de Kisangani. Nous recevons en fin de cette édition Bertin Routega, chef de programme de la Fondation Panzi. Il parle de l'érection dans les tout prochains jours d'un nouvel hôpital dans la ville de Kisangani. Fidèles auditeurs, merci de choisir Radio Okapi pour votre information et aussi la confiance que vous nous accordez. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. À la présentation de ce journal, Billy Van Lutumba. La province du Nord Kivu aligne plus de 63 700 finalistes de secondaire aux épreuves d'examen d'État 2022. Le lancement a été supervisé ce lundi matin par le gouverneur de la province, le lieutenant-général Constant Dima. Pour la province éducationnelle Nord Kivu 1, qui aligne environ 22 500 candidats, les autorités scolaires déplorent de nombreux défis sécuritaires, entre autres la guerre du M23. Bernard Denyangi.
L'effectif initial des candidats à ces épreuves pour la province éducationnelle Nord Kivu 1 est estimé à plus de 22 000. Il existe quelques défis sécuritaires qui pourront entraîner par ricochet des perditions. L'inspecteur principal provincial de l'EPST qui fait ce constat relève tout de même que certaines dispositions ont été prises. Perro Konepunga.
À cause des affrontements entre les FARDC et les terroristes du M23, les déplacements subséquents des populations, le taux de déperdition sera certes cumulé. Mais en attendant la délocalisation des centres de passation insécurisés vers les milieux sécurisés et l'acceptation des rescapés où qu'ils se trouvent pour passer les épreuves. Les instructions ont été données aux chefs de centre et aux poules secondaires ainsi que au superviseur quant à ceux.
Lors de la cérémonie de lancement, le gouverneur du Nord Kivu, Constant Dima, a fait observer une minute de silence en mémoire des élèves finalistes et enseignants tués par des balles durant cette année scolaire, entre autres dans les territoires de Rutshuru et de Beni. Il a par la suite encouragé les participants à ces épreuves ordinaires de 4 jours à plus de courage. Goma, Bernardin Aguirre, Radio Okapi.
En territoire de Rutshuru, au moins 400 élèves finalistes du secondaire ont pu accéder à leur centre de passation d'examen d'État grâce à une intervention des casques bleus déployés dans la zone. Selon les sources de la MONUSCO, dans le cadre des efforts de protection des civils, une escorte a été fournie par les casques bleus du secteur central en faveur de ces élèves de Kitagoma. C'est vers la frontière avec l'Ouganda dans le groupement de Busanza. L'escorte a accompagné ces élèves jusqu'à leur centre d'exéta à l'Institut supérieur pédagogique de Rutshuru, au chef-lieu du territoire. Signalons que le groupement de Busanza est parmi les 4 groupements du territoire de Rutshuru les plus affectés par les affrontements entre les FARDC et le M23. À l'Équateur, plus de 12 000 élèves finalistes, filles et garçons, étaient attendus ce lundi aux épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État. Ils sont repartis dans 41 centres, dont 15 à Mbandaka. Mais le gouvernement provincial a pris en charge les frais de participation des candidats autochtones pygmées estimés à 109 élèves. L'annonce a été faite par le gouverneur de province à l'occasion du lancement officiel de ces épreuves. C'était en présence de la délégation nationale conduite par l'inspecteur général adjoint de l'EPST et des autorités provinciales. Des détails avec Paul-Richard Malengela.
Cette année scolaire, l'autorité provinciale de l'Équateur a fixé les frais de participation à 75 000 francs congolais. Ces frais ont été imposés à tous les élèves finalistes des humanités. Cependant, plusieurs parents et élèves n'ont pu réunir le montant exigé, particulièrement les enfants de peuples autochtones et démunis. C'est pourquoi le gouverneur de province a décidé, au cours du lancement officiel de ces épreuves, la prise en charge totale de leurs frais de participation. Dieudonné Bolokobolumbu a aussi recommandé au président des centres de passation d'exéta de ne pas chasser les autres candidats non en règle de paiement, car a-t-il dit aux finalistes, vous êtes l'élite de demain dont la province a besoin pour son développement. Ainsi, il les a exhortés à bannir la peur, mais à affronter la session avec assurance et détermination en vue de défendre l'honneur de la province en comptant parmi les meilleurs lauréats du pays. Par ailleurs, l'IGA Victor Kongolo, qui conduit la délégation de supervision nationale, a aussi encouragé les candidats. Travailler pour obtenir de bons résultats mérités, leur a-t-il dit, afin de prouver l'efficacité de votre cursus scolaire jusqu'au niveau supérieur et universitaire. Enfin, le gouverneur de province a promis des sanctions à tous ceux qui vont frustrer les élèves, soit se livreraient à des antivaleurs. Bondaka pour Chamalenge, la radio Okapi.
Parlant toujours de l'examen d'État, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a donné le coup d'envoi des épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022 à partir de Kolwezi dans le Lualaba. Tony Mwaba a par la même occasion invité les élèves finalistes à travailler dans la sérénité et à bannir les antivaleurs, car d'après lui, n'aura de diplôme que celui qui l'aura mérité. Jean Gandou.
Cette cérémonie a eu pour cadre le complexe scolaire Ewabora. Pour ces épreuves de 4 jours, 2653 centres sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national pour près de 920 000 candidats. La province du Lualaba, d'où le coup d'envoi a été donné, aligne 13 408 finalistes, dont 5 902 filles pour les cycles longs et 165 candidats, dont 85 filles pour les cycles courts répartis dans 35 centres. Une occasion pour la gouverneure AI du Lualaba, Fifi Masuka, de saluer l'engagement de tous les enseignants qui, contre vents et marées, ont tenu bon malgré le contexte difficile caractérisé notamment par la pandémie de Covid-19. Le ministre Tony Mwaba, qui a aussi encouragé les élèves finalistes, a rappelé aux uns et aux autres la particularité de cette édition. D'après lui, ne peut avoir son diplôme que celui qui aura obtenu au moins 50% de points dans le cours d'option. Il a aussi demandé aux élèves de bannir les antivaleurs. N'aura le diplôme que celui qui le mérite, a-t-il martelé. Notons que pour la province du Lualaba, le gouvernement provincial a payé les frais de participation pour tous les élèves finalistes de la province. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Politique. Le vrai problème du développement de la RDC est l'absence de l'État comme superstructure sur laquelle doit être bâti tout projet de société. Propos de Jean-Marc Kabunda Kabunda. Il s'exprimait ainsi au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 18 juillet ici à Kinshasa. Parmi les points évoqués, ce député élu sur la liste de l'UDPS Tshisekedi et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale a annoncé la formation de son parti politique dénommé Alliance pour le changement. Paul Matendo.
Parlant de son parti, Jean-Marc Kabunda estime que l'homme congolais reste la priorité des priorités.
Nous estimons dans l'Alliance pour le changement que le vrai problème dans ce pays, c'est d'abord l'homme congolais, mais ensuite l'absence de l'État.
Il regrette par ailleurs que le régime en place ait repris le système de l'impunité.
Le peuple qui avait nourri l'espoir de voir une nation s'établir après la passation pacifique et civilisée du pouvoir a vu renaître les sentiments du tribalisme et du régionalisme. L'opinion nationale est scandalisée de la reprise avec force de l'impunité dans notre pays.
Jean-Marc Bound a également parlé de la déstabilisation des institutions provinciales.
Le processus de la décentralisation est battu en brèche par le pouvoir en place en y institutionnalisant un clientélisme et une corruption à grande échelle. Les institutions provinciales sont devenues ingérables.
Au sujet de sa collaboration avec le chef de l'État, il dit avoir déconseillé à Félix Tshisekedi le plan de se maintenir au pouvoir par le glissement.
Quand j'ai appris tout simplement qu'un plan s'est tissé autour du président Félix pour gagner 2 ans de glissement, puis organiser des élections où la tricherie s'était en train de se préparer parce que beaucoup se vantaient déjà d'avoir la CENI. J'ai dénoncé cela.
La taxe RAM a été également évoquée. Selon lui, cette taxe est une escroquerie de la population.
En Ituri, 30 morts dont 22 ADF neutralisés et leurs armes récupérées au cours des combats ce week-end entre l'armée FARDC et ce groupe rebelle dans les villages Mongue et Panza. Otomaber et Ndimo dans la chefferie de Valessevutu. Selon des sources sur place, parmi les victimes figurent 8 civils dont les maisons ont été incendiées par ces rebelles. Une situation qui a poussé de nombreux habitants, dont des retournés, à se réfugier vers les camps des militaires qui contrôlent cette zone. L'armée appelle la population à renforcer la collaboration avec les forces de l'ordre pour en finir avec ce groupe armé. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis samedi soir que les rebelles des ADF, chassés de la localité des Panza, se sont réorganisés dans les centres d'Otomaber en tirant plusieurs coup de feu pour terroriser la population. Ils ont abattu 2 civils avant de se livrer aux actes de pillage et d'incendie de leurs habitations. L'armée est intervenue quelques heures pour empêcher ces exactions et réussit à les repousser loin de cette zone. Presque tout l'après-midi des dimanches, des tirs à l'arme lourde étaient entendus vers la localité de Mongue, à une vingtaine de kilomètres du village Idohu sur l'axe Komanda Luna où l'ennemi s'est encore réorganisé. Pendant plusieurs plusieurs heures de combat, l'armée avance un bilan des 22 rebelles neutralisés et 8 armes AK-47 ainsi que du matériel de communication récupéré des mains de ces rebelles. La société civile, quant à elle, déplore le meurtre des 6 civils tués cette nuit en Dimo où l'ennemi a surpris encore la population. Elle salue toutefois l'intervention de l'armée qui a pris le dessus sur ces inciviques et réussi à sécuriser plusieurs habitants dans leur fuite. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Nord Kivu, désormais les marchandises et les personnes qui quittent le poste frontalier de Kassindi pour Beni et vice-versa seront sécurisées par une patrouille militaire. Cette décision a été prise par le gouvernement provincial du Nord Kivu samedi dernier à Goma à l'issue d'une rencontre avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, l'association congolaise des déclarants agréés en douane ICAD et la COPEMECO. C'est à la suite de la grève des commerçants du Grand Nord depuis une semaine pour demander plus de sécurité. Sifama Gourou pour les détails.
Pour le vice-premier président de la FEC Nord Kivu, Berki Chirimwami, les opérateurs économiques ont payé un prix lourd par rapport à cette insécurité sur l'axe Kassindi-Beni. Pour sa part, l'association des déclarants en douane a salué la réponse de l'autorité locale, mais elle demande plus d'efforts au gouvernement central pour qu'une solution durable soit trouvée. Deliance Matata Tsongo, président AK de Nord Kivu.
L'objectif de l'ennemi, c'est asphyxier les commerces dans les grands pour que la population puisse se soulever contre l'État. Le gouverneur vient de prendre une mesure, de trouver une solution pour lever cette mesure de grève qui prévaut à Kassindi.
Le conseiller principal du gouverneur en matière économique et des finances souligne qu'une délégation mixte doit se rendre incessamment à Beni Kassindi, mais aussi à Ishasha pour matérialiser cette mesure et évaluer d'autres besoins. David Kamoua.
Une grande délégation va devoir se rendre dans les Grands Nord pour aller identifier tous ceux qui ont été victimes de ces actes ignobles de rébellion. Nous avons évoqué la problématique des marchandises qui sont bloquées au niveau de Bounagana avant la prise par les rebelles. Nous allons proposer à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le mécanisme de récupération de toutes ces marchandises.
Les dernières victimes de l'insécurité à Boulongo seront également visitées et assistées. Goma Sifamagour, Radio Okapi.
Cette autre nouvelle au sud Kivu, le gouvernement a déclenché ce lundi une série de mesures visant à éviter les multiples cas d'accidents enregistrés ces jours-ci dans la ville de Bukavu. Ainsi donc, les mototaxis sont interdits de circuler sous le boulevard Patrice Emery Lumumba au centre-ville. Les engins lourds demeurent dans le viseur du gouvernement provincial tel qu'il a été décidé par le Conseil des ministres le vendredi passé. Un reportage de Jean Kassami.
Les accidents à répétition dans la ville de Bukavu sont souvent imputés aux conducteurs des taxis moto des tricycles et des engins lourds. Le Conseil de sécurité a levé l'option vendredi d'interdire à partir de ce lundi 18 juillet la circulation de ces engins sur le boulevard Patrice Emery Lumumba, tronçon le plus fréquenté à Bukavu. Les associations des chauffeurs des taxis moto ont trouvé cette mesure très suicidaire au regard du nombre de personnes, en majorité des démobilisés qui trouvent leur pain quotidien dans les métiers des taxis moto. Hier dimanche, le gouverneur a accordé un moratoire de 30 jours, espérant que les chauffeurs de moto vont se faire identifier. Réaction de Jérémy Chito, président urbain de l'Association pour la solidarité nationale des motards du Congo au site Kivu. Les taxis voitures, les taxis bus sont également invités à se faire identifier. Le gouvernement provincial exige également à la police de circulation routière d'assurer le contrôle de l'état des véhicules en circulation. Dans moins de deux mois, la ville de Bukavu a enregistré plus de 10 cas d'accidents mortels causant mort d'homme. Plusieurs transporteurs à Bukavu reproche à la police de roulage de ne pas faire correctement son travail. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Plus au centre du pays, dans la province du Kasaï oriental, lancement dimanche dans le territoire de Miabi du programme de développement local de 145 territoires dans son volet énergie. D'après le gouverneur de province, ces travaux consistent en la construction des mini-centrales solaires et hydroélectriques dans les milieux ruraux. Des explications avec Esther Dalafina.
Au cours de cette cérémonie, le directeur général de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, qui va s'occuper de l'électrification en RTC, a indiqué que les travaux démarrent après 7 mois d'études sitographiques effectuées par une dizaine d'ingénieurs qui ont sillonné les 5 provinces du Grand Kasaï. Il consiste en la construction des centrales solaires et hydroélectriques. Idesbal Chinamula a par ailleurs souligné que le projet prévoit que la première ampoule soit allumée d'ici le 15 décembre de l'année en cours. À cet effet, les maisons résidentielles des milieux ruraux seront seront électrifiées, ainsi que les activités de production. D'après le DG d'Anser, cette électrification va créer des entreprises ainsi que des emplois pour les jeunes. Pour Anser, la deuxième étape consiste en la contractualisation des entreprises qui vont exécuter les travaux dans un bref délai. Bien avant la publication des offres, quelques gouverneurs du Grand Kassai sont actuellement en Mbujimayi pour être édifiés sur le projet par les responsables d'Anser. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Des milliers de membres de l'ethnie des Haoussa impliqués dans le conflit tribal qui endeuille depuis une semaine le Soudan ont monté lundi les barricades et attaqué des bâtiments publics dans plusieurs villes, ont rapporté des témoins. Selon le dernier bilan officiel, 60 personnes ont été tuées et 163 blessées, dont une dizaine grièvement, en une semaine dans des affrontements dans l'état du Nil bleu frontalier de l'Éthiopie. Les violences ont opposé les Haoussa, des agriculteurs africains présents dans toute la bande sahélienne, à un autre clan africain, les Barti. Deux cas de la maladie à virus de Marburg, une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola, ont été enregistrés au Ghana. Les tout premiers dans le pays ont annoncé dimanche les autorités sanitaires. Le 8 juillet, les prélèvements sanguins des deux personnes réalisés dans la région d'Ashanti au sud suggéraient le virus de Marburg et les échantillons avaient été envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar, IDP, pour confirmation, avait affirmé le service de santé ghanéen. Les tests supplémentaires effectués à l'IDP au Sénégal ont corroboré les résultats, a annoncé dimanche Dr Patrick Kouma Agboaye, directeur général du GHS, dans un communiqué.
L'invité.
Dans les mois à venir, la fondation Panzi du docteur Denis Mukwege pourrait construire un hôpital dans la ville de Kisangani. Une délégation de cette fondation séjourne actuellement dans cette ville pour une mission d'étude de faisabilité, d'identification et d'analyse du contexte. À cet effet, elle a rencontré les autorités aussi bien politiques que médicales pour leur en faire part. Pour en savoir plus, nous recevons le chef de la délégation, Bertin Routega, chef de programme de la Fondation Panzi. Il s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Bertin Routega, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le directeur de programme de la Fondation Panzi. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, projette, semble-t-il, la construction d'un hôpital à Kisangani. C'est ce qui justifierait votre présence dans la capitale de la province de la Tchopo. Est-ce que vous confirmez cette information?
Effectivement, son excellence docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, il a l'ambition de construire un hôpital ici dans la ville de Kisangani, et c'est la raison pour laquelle il nous a envoyé une équipe de 3 personnes, moi-même, un médecin spécialiste, mais également un ingénieur architecte, pour pouvoir examiner la faisabilité de la construction de cet hôpital. Nous sommes à une étape d'identification, d'analyse du contexte, d'évaluation des besoins et contact avec différentes parties prenantes. Et après, on va lui faire rapport. Sur base de ces rapports, il va prendre la décision nécessaire. Mais également, on va revenir encore à la fin du mois d'août avec certains partenaires français qui sont eux aussi intéressés à accompagner et à chercher des ressources financières pour ces projets.
Est-ce que vous avez déjà acquis un terrain ici où sera érigé cet hôpital?
Oui, son excellence docteur Denis Mukwege a déjà acheté un terrain sur la route qui mène vers l'aéroport. Mais également, à part l'acquisition du terrain, nous avons été toute cette semaine en contact avec son excellence le ministre provincial de la Santé. Nous avons été en contact également avec la ministre provinciale du genre.
Quelle est la vision du docteur Mukwege en construisant cet hôpital?
Que la vision du docteur Mukwege, c'est pas seulement de construire un hôpital de type classique, mais c'est un hôpital qui sera un one-stop center.
Qu'est-ce que cela veut dire?
Le one-stop center, c'est le guichet unique qui doit comprendre les 4 piliers de la prise en charge holistique.
Et quels sont ces piliers?
Le modèle holistique que le docteur a développé au Sud Kivu, qui est ailleurs dans le monde aussi, aussi, c'est un modèle qui a quatre piliers. Le pilier de la prise en charge médicale, le pilier de la prise en charge psychosociale et santé mentale. Le troisième pilier, c'est le pilier de la réinsertion socio-économique et autonomisation de la femme. Le quatrième pilier, c'est le pilier d'accompagnement juridique et judiciaire. Et à côté de ces quatre piliers principaux, il y a le programme Badilika qui s'occupe de tout ce qui est prévention contre les violences basées sur le genre. Parce que la principale vision de la Fondation Panzi, c'est de voir émerger la femme comme actrice à part entière dans une société où règne la cohésion sociale.
On le sait, le docteur Mukwege est d'ailleurs surnommé le réparateur des femmes. Est-ce que vous avez déjà fait la prospection, vous avez déjà eu les données sur place à Kisangani qui lui permettent de pouvoir installer ce genre d'hôpital dans ces milieux?
Oui, on a récolté beaucoup d'informations durant la semaine. Et ce qui nous réjouit, c'est que tous les acteurs concernés sont enthousiastes à l'idée que le docteur Mukwege puisse répliquer ici l'important travail qu'il a déjà fait au niveau du Sud Kivu. Et les différents intervenants contactés nous ont montré qu'il y a des gaps, que l'hôpital que le docteur pourrait construire, cet hôpital peut couvrir ces gaps-là. Mais également, les autorités rencontrées ont aussi exprimé ces souhaits-là, et en nous faisant montrer que ce projet figure parmi les priorités de la province. Au niveau du ministère de la Santé, on nous a donné les sites avec les besoins, et on est content que tous les acteurs et les parties prenantes contactées montrent que ce projet est pertinent, parce qu'il coïncide avec des besoins qui sont ressentis au niveau local, mais également au niveau des ministères clés, ça coïncide avec les priorités de la province.
Pour terminer, Bertin, dites-nous à quel moment précis vous allez vous installer à Kisangani.
C'est sûr que le docteur aura des activités à réaliser dans la ville de Kisangani. Quand on revient au mois d'août, peut-être que l'idée du projet, ça sera plus ou moins clair de ce qui sera fait et quand ça sera fait.
Bertin Rutega, merci.
C'est nous qui vous remercions.
Mesdames et messieurs, voilà comment se referme cette édition de Journal sur Radio Okapi. Merci de l'avoir écouté.